lettre de Fernand Cortés à Charles Quint sur la découverte et la conquête du Mexique. Préface. Cortés a beaucoup écrit pendant son très long séjour à la Nouvelle-Espagne et cette correspondance adressée à l'empereur, président du Conseil des Indes, restée en partie inédite, pourra donner matière, un jour ou l'autre, à une publication extrêmement importante pour l'histoire du Mexique et de l'Amérique centrale. Ce n'est d'aucune de ces lettres proprement dites qu'il est question dans le livre que je suis chargé de présenter au lecteur. On a depuis longtemps mis à part, dans les écrits émanés de Cortés, ce que l'on appelle les relations, qui sont les véritables rapports officiels sur les événements dont il a été le principal acteur et qu'il expose avec de grands détails. Ce sont ces relations que M. Désiré Charnay vient de traduire intégralement en français sous le titre de lettre de Fernand Cortés à Charles Quint et qui forment le volume que l'on va lire. On n'a connu pendant de longues années que trois des relations de Cortés. C'étaient d'ailleurs les plus intéressantes. Elles portaient dès l'origine les numéros 2, 3 et 4, une première relation envoyée au début de l'expédition, n'ayant pas été retrouvée. La deuxième, datée de Segura de la Frontera, 30 octobre 1520, a été éditée à Séville le 8 novembre 1522, en une petite brochure de 28 pages in folio, par l'imprimeur allemand Jacob Kronberger, qui faisait connaître quelques mois plus tard, 30 mars 1523, en 30 pages du même format, la troisième relation adressée de Cuyoacán à l'empereur, le 15 mars 1522. Ces deux textes castillans étaient traduits en latin et publiés à Nuremberg en 1524 par Pierre Savornion de Forlì et Niccolò Liburnio les donnait en italien 6 mois après à Venise. Enfin, le 20 octobre 1525, Gaspard de Avila achevait d'imprimer la quatrième relation, partie juste une année plus tôt de Tomixtitlan, Mexico, pour la cour d'Espagne. Les contemporains de Cortés ont donc pu lire immédiatement les récits de la conquête narrés par l'aventurier audacieux qu'il avait mené à bon terme. Ce n'est, au contraire, que beaucoup plus tard que les historiens du Nouveau Monde ont connu le document de 1519 qui tient lieu de la relation première et la cinquième relation qui raconte l'expédition au Honduras, 1526. C'est en effet à l'historien américain Aubertson que l'on doit la connaissance de ces deux morceaux qui gisaient l'un et l'autre dans un manuscrit oublié de la bibliothèque impériale de Vienne, d'où le chevalier Kess les a tirés pour son illustre ami. Les éditions espagnoles de Barcia et de Lorenzana, antérieures à cette découverte, la traduction française de Flavigny faite sur cette dernière en 1778, était très incomplète, et l'on ne saurait trop remercier Monsieur Charnay d'avoir bien voulu consacrer les loisirs d'une verte vieillesse à nous donner, dans notre langue, un texte complet, tiré de la collection publiée à Madrid par Don Enrique de Vedra, et qui permettra à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire d'Amérique de lire sans effort et avec sûreté les récits désormais classiques du plus grand des conquistadors. La traduction de M. Charnay n'est pas seulement plus complète, elle est aussi plus fidèle en général que celle de son distingué devancier. Flavigny connaissait bien la langue castillane, il l'a prouvée à diverses reprises, mais il traduisait, comme c'était alors la coutume, en se contentant de donner tant bien que mal le sens général, sans se préoccuper de rendre chaque terme et de conserver, dans la mesure du possible, les tournures spéciales propres à son auteur. Il passait un mot, sautait un bout de ligne, abrégeait la phrase ou la remplaçait par un véritable commentaire. Monsieur Charnay ne prend pas les mêmes libertés avec le texte castillan qu'il suit habituellement de plus près, en s'efforçant d'ailleurs de garder à sa traduction un caractère aussi littéraire que possible. Il a du reste sur Flavigny plusieurs avantages importants. Il connaît par lui-même, pour les avoir personnellement explorés, les contrées où se passent les événements racontés par le conquérant espagnol. Il a étudié sous ses divers aspects et dans ses différentes provinces la population indienne que Cortés met en scène. Enfin, le dialecte colonial n'a aucun secret pour lui, et chacun des termes indigènes employés dans les relations lui est depuis longtemps familier. Aussi me suis-je pris à regretter, au lieu d'une simple traduction, un écrivain aussi bien préparé n'ait point tenté de nous donner une véritable édition critique, avec les variantes déjà relevées par Navarrete et des commentaires historiques et géographiques, dont l'absence se fait sentir, ce me semble, dès les premières pages du volume. Je me suis trompé peut-être en formulant une telle réserve. Il est possible que M. Charnay ait bien fait d'alléger un texte auquel il voulait prêter avant toute une allure littéraire, de ses annotations, dont Vedra lui avait donné l'exemple, et qui fatigue le lecteur, en coupant en menus morceaux le récit qu'il a commencé. Puisse l'excellent traducteur avoir eu tout à fait raison. Je souhaite que son livre ait au moins les éditions que, à la veille de la Révolution, celui de Flavigny, et que quelques-uns de ceux qui auront lu, dans leur texte définitif, les relations de Cortés se prennent d'un beau zèle pour ces intéressantes études américaines si longtemps négligées, et qui ouvrent à la contemplation des penseurs de si larges, de si nouveaux horizons. Amis, membres de l'Institut, à eu lecteur. Je me permettrai d'ajouter à la préface de mon éminent ami les considérations suivantes. Ces lettres de Cortés, quoique prêtant à la critique, ont à des points de vue divers une valeur, un attrait et un intérêt considérables. C'est la conquête d'un vaste empire raconté par les conquérants. C'est César écrivant ses campagnes des Gaules, et ce n'est pas sans raison que certaines personnes se sont plu à établir un parallèle entre les lettres et les commentaires. Pour qui connaît le Mexique, l'avantage resterait à Cortés, car la Gaule ne saurait se comparer aux divers états civilisés de l'Amérique septentrionale. Elle n'avait point d'empire d'une cohésion, d'une force et d'une civilisation comparable à l'empire des Aztèques. Elle n'avait pas des villes de 2 à 500 000 âmes comme Tlaxcala, Cholula, Texcoco ou la grande Tenochtitlan. Et puis, Cortés, au lieu de commander à des légions romaines, ne traînait avec lui que 300 aventuriers, et c'est avec moins encore, c'est avec 200 hommes seulement, et quelques alliés indiens, qu'après de sanglants combats, il force les Tlaxcaltèques à demander la paix, qu'il soumet la ville de Cholula, et qu'il entre à Mexico. La première de ces lettres est la plus faible. La seconde, la plus intéressante. La troisième, la plus dramatique. La quatrième, celle où le conquérant développe le mieux ses qualités d'organisateur. La cinquième n'est que l'étalage d'une grande faute où son besoin d'aventure entraîna Cortés. La première est la plus faible. Pourquoi ? Cortés n'est alors que le planteur galant et bravache de l'île Fernandina, il n'est pas encore lui. Quoique dévoré d'ambition, il ignore sa valeur. Il se doute à peine du drame étrange dont il n'est qu'au prologue, de l'épopée grandiose dont il sera le héros. Mais s'il ignore sa destinée, il la prépare, et cette relation n'a pour but que de se donner la première place dans cette affaire et de ruiner Diego Velázquez, le promoteur de l'entreprise, dans l'esprit de son souverain. Aussi n'est-il pas censé l'écrire cette relation perfide. Il la dicte à ses compagnons d'aventure, dont il se fait proclamer le chef suprême en attendant que Charles Quint vienne confirmer cette élection adroitement escamotée. Mais, dans la seconde lettre, Cortés nous racontera ses faits et gestes, nous décrira le pays, ses productions, ses coutumes, son industrie et ses richesses. Il nous dépeindra les villes merveilleuses qu'il traverse et conquiert, ses négociations avec leurs princes, ses luttes et ses combats de chaque jour, avec une abondance étonnante, et parfois en termes magnifiques, de sorte que d'un seul bond, il se révèle écrivain remarquable, politique subtil, grand administrateur, et plus grand capitaine. On peut lui reprocher en certains passages de tronquer la vérité, ou de manquer de bonne foi, il semble redouter le jugement de la postérité. En sujet du complot de Kolya par exemple, il parle de 3 ou 4 000 morts, tandis que les historiens accusèrent près de 30 000 victimes. Il était abominable. Guet-apens qu'Alvarado tendit à la noblesse mexicaine, et qui provoqua le soulèvement de la nation tout entière. Comme tout général, il enfle peut-être ses exploits comme les défaites de ses adversaires, et, grâce au merveilleux de son entreprise, tombe dans des exagérations qui frappent le lecteur. Il n'hésite pas à compter des centaines de milliers dans le dénombrement de ses ennemis. Un jour même, il compte 149 000 Tlaxcaltèques. C'est trop. Son avidité, ainsi que celle de ses compagnons, vous révolte, encore qu'on sache bien que les conquêtes en général n'ont d'autre but que la recherche de l'or et la dépouille des vaincus. Lorsqu'après 75 jours de siège, la grande ville affamée, ruinée, détruite se rendit avec ses derniers soldats mourants, il exalta l'indomptable courage de Guatimozin, cet empereur de 22 ans qui, refusant de se rendre, lui demandait la mort, mais il oublie de dire que les quelques jours plus tard, il le faisait mettre à la torture, avec un de ses capitaines pour lui arracher le secret de ce trésor. Épisode cruel et déshonorant qui nous a valu l'héroïque apostrophe du jeune souverain à son ami, à qui la douleur a arraché une plainte, et moi, suis-je sur un lit de rose. D'après Gomara, cette charmante phrase ne serait point la vraie, ce serait la suivante. Guatimozin regarda son compagnon avec colère, le traita de lâche et lui dit « Et moi, suis-je à quelque plaisir ou au bain ?» Plus tard, Cortés emmena le jeune empereur dans son voyage au Honduras et, sur une accusation assez vague d'un complot ayant pour but d'assassiner les Espagnols et sans aucune preuve à l'appui, Cortés, nous dit Bernal Díaz del Castillo, le fit pendre, ainsi que le roi de Tacuba. Au capitaine Malinche, lui dit Guatimozin, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai compris et reconnu à tes fausses paroles que tu me gardais cette mort, que ne me la suis-je donné le jour où je me livrais à toi dans ma ville de Mexico. Pourquoi me meurtris-tu sans justice? Que Dieu t'en demande compte. Elle, cette mort, ajoute le vieux soldat, cette mort qu'on leur fit souffrir, fut très injustement ordonnée, et parut malséante à nous tous, qui fûmes de l'expédition. Bien d'autres exécutions barbares témoignent de la cruauté du conquérant. Elle, cependant, il fait preuve parfois d'une sensibilité qui nous étonne, et d'une équité qui nous le montre moins impitoyable. Pendant ce mémorable siège de Mexico, il applaudit et il admire le courage indomptable des Aztèques, s'attendrit sur les souffrances des assiégés et s'efforce de les arracher aux fureurs de ses alliés indiens. Cette bonté et cette sensibilité, tout en étant que relative, étaient d'autant plus appréciées des Indiens qu'en dehors de l'influence de Cortés, ces malheureux subissaient de la part des Espagnols les persécutions les plus abominables, si bien qu'à l'annonce de son retour après cette longue absence de 2 ans, les Indiens accouraient des contrées les plus éloignées et bordaient la route sur son passage pour implorer sa justice et sa clémence. Mais rien d'égal, son ingratitude à l'égard de Dona Marina, son interprète, sa maîtresse et son amie. Elle appartenait à une grande famille indienne. Elle était princesse. Elle était jeune, belle, intelligente, et pendant son existence près de Cortés, jamais créature humaine ne se fondit en un pareil dévouement. Qu'il ne parlait point d'elle dans sa première lettre, cela se comprend. Il ne connaissait alors aucune de ses qualités et pouvait au besoin la confondre avec les jolies filles que les caciques prodiguaient à ses soldats. Mais plus tard, comment ne se rappelle-t-il même pas le nom de cette charmante créature que tout le Mexique admirait, qui ne le quitta jamais d'une seconde, qui fut son inspiratrice, son porte-parole et son ange gardien? Ce fut elle, en effet, qui entama les premières négociations avec les indigènes, qui lui dénonça les espions tlascaltèques venus pour observer son camp, et dont le succès eut amené le massacre sa troupe. Ce fut elle qui découvrit le complot de Cubolula, où il eut infailliblement péri. Elle était à ses côtés, lors des batailles sanglantes de Mexico, et c'est avec lui qu'elle échappa au désastre de la Nuit Triste. Pendant les 3 mois du siège de la grande ville, elle assista, compagne inséparable, à plus de 100 combats, transmettant les ordres du conquérant à ses alliés et ses propositions aux Indiens ennemis. Et la ville prise, saccagée, détruite, elle part avec Cortés pour cette folle expédition du Honduras qui dura 2 ans. Veulent bien, il ne lui consacre pas une ligne. En somme, la conquête de Cortés, qui donna à l'Espagne un empire de 500 lieues de diamètre du nord au sud et de 400 de l'est à l'ouest, coûta au Mexique plus de 10 millions d'êtres humains emportés par la guerre, les maladies et les mauvais traitements, de sorte que cet homme de génie peut entrer sans conteste dans la redoutable phalange des fléaux de l'humanité. Aussi le Mexique, qui vient d'élever un magnifique monument en l'honneur de Guatimozin, l'héroïque vaincu, ne dressera jamais un buste à la mémoire de Cortés, son vainqueur. Désiré Charnay.